14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Si c'est un crime, on n'en connaît pas le mobile exact. Si c'est un suicide, on n'a pas la certitude du motif. À aucun moment, il n'a montré une quelconque émotion. Il a fait un travail d'ingénieur, il n'a pas fait le travail d'un veuf éploré.
Bonjour, peut-on se suicider de deux balles, dont l'une dans la tête, et avant de mourir, prendre le soin d'enlever sa combinaison tachée de sang? Jeannine Lindeker, 34 ans, a-t-elle accompli cette prouesse en se donnant la mort vêtue simplement d'un porte-jartel et d'un slip rose, ou bien a-t-elle été victime d'un mari autoritaire et jaloux? Pendant des mois, Alfred Lindeker, ingénieur chez Michelin, homme rigoureux, maniaque et obsessionnel, va attirer tous les regards et endosser le costume du suspect numéro 1. Impossible pour les enquêteurs de ne pas s'intéresser à cet homme triplement veuf. Dernier témoin à avoir vu Jeannine vivante, personnage qui a réponse à tout, qui va dérouter, on va le voir, les policiers et le juge d'instruction. C'est cette affaire, l'affaire Lindeker, entre certitude et mensonge, que nous allons parcourir aujourd'hui. Comment un homme seul, que tout accable, va parvenir à tenir tête à ses accusateurs, et ce sans jamais montrer la moindre faille ou la moindre faiblesse. Assassin ou époux à la bonne foi désarmante, question que nous allons poser aujourd'hui à notre invité.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Alfred Lindeker. À la fin de l'hiver 1956, cet ingénieur connu pour son sérieux, habitant dans la banlieue de Clermont-Ferrand, se retrouve en plein drame, la mort brutale de sa jeune épouse. Ce lundi 12 mars 1956, vers 18h30, un homme petit et trapu, portant un chapeau et un épais manteau pour se protéger du froid glacial, vient frapper à la porte de la gendarmerie de Roya, une commune limitrophe de Clermont-Ferrand. La gendarmerie est fermée. L'homme pénètre donc dans la mairie où il tombe sur le secrétaire général. Il dit s'appeler Alfred Lindeker et habiter dans le haut du village, une maison sur une route au nom prédestiné, la route des soupirs. Il raconte qu'il vient de trouver son épouse chez lui, effondrée dans une mare de sang. Il ne sait pas vraiment si elle est morte. Il parle d'un possible suicide. Une demi-heure plus tard, le médecin est sur les lieux, rejoint dans la maison de la route des soupirs par trois policiers du commissariat de Chamalières. Jeannine Lindeker, 34 ans, est allongée sur le dos, au beau milieu de la cuisine, la tête ensanglantée. Elle est quasiment nue, elle ne porte qu'une petite culotte rose, un porte-jartel et une paire de bas neufs. Le médecin a rapidement constaté le décès de la malheureuse. Une blessure est visible sous le sein gauche, un orifice causé par une balle. En relevant les cheveux de la victime, le docteur a noté qu'une deuxième balle est entrée par la tempe puis est ressortie de l'autre côté du crâne. Le décès remonterait aux alentours de 15 heures. Les policiers découvrent le revolver qui a donné la mort. L'arme calibre 7,65 est curieusement posée sur le buffet de la cuisine. Alfred Lindeker indique qu'il a lui-même ramassé le revolver qui lui appartient afin d'éviter que l'un des chats de la maison joue avec et cause un nouvel accident. Le mari précise qu'il a découvert le corps au retour de son travail. Il est ingénieur chez Michelin, à Clermont-Ferrand. Il donne tous les détails possibles. Il explique qu'à son arrivée, la porte était normalement fermée, sans être verrouillée. Il n'a remarqué aucune trace d'effraction, aucun désordre dans la demeure. Rien ne semble avoir été dérobé. D'emblée, Lindeker insiste. Il ne s'agit pas, selon lui, d'une agression, mais d'un suicide. Affirmation qui laisse pour le moins perplexe le commissaire Coutarel et les deux fonctionnaires qui l'accompagnent. Comment Jeannine Lindeker aurait-elle pu mettre fin à ses jours en se tirant deux balles à deux endroits distincts, à des distances différentes? Qui plus est, l'examen du barillet du revolver indique que ce ne sont pas deux balles qui ont été tirées, mais trois. L'un des projectiles a sans doute raté sa cible. En le recherchant sous un buffet, un policier fait une étonnante découverte. Il met la main sur une combinaison roulée en boule. Le vêtement est maculé de sang. Il porte la trace du coup de feu sous le sein gauche. Si elle s'est suicidée, Jeannine Lindeker se serait donc dévêtue. Après s'être tirée une première balle, elle se serait achevée en visant cette fois la tête. Opération digne d'une contorsionniste, tout aussi acrobatique qu'improbable, concluent les policiers. Alfred Lindeker est interrogé sur cette journée de lundi. Il peut la décrire avec précision. C'est effectivement un homme d'habitude, un mari réglé comme du papier à musique. Ce 12 mars au matin, il s'est rendu à son bureau aux usines Michelin à Clermont-Ferrand, à 20 minutes de Roya. Il est revenu pour déjeuner chez lui à 12h40 et non 12h30 comme d'habitude, car il avait dû s'arrêter dans un garage du coin. Il est passé à table avec Jeannine à 12h45 précise. Le repas a été rapide. Lindeker dit s'être un peu disputé avec son épouse. Il est économe, c'est une histoire d'argent, mais rien de grave, assure-t-il, même si Jeannine lui a fait, dit-il, un peu la tête. À 13h30, il a repris sa voiture pour retourner chez Michelin. Il a retrouvé son bureau à 14h, il l'a quitté à 18h10 et a retrouvé son domicile un quart d'heure plus tard. En entrant, il a tout de suite aperçu les mules bleues de Jeannine devant la porte de la cuisine. Puis il a vu le corps dénudé, il répète... Ma première impression, c'est qu'elle s'était suicidée. En l'absence d'un autre suspect, les policiers vont fixer toute leur attention sur l'ingénieur de Michelin. Il apparaît de plus en plus comme le coupable idéal, mais cet homme déconcertant semble toujours avoir réponse à tout. Les enquêteurs n'avaient pas beaucoup de doutes, mais désormais, rapport du médecin légiste à l'appui, ils peuvent clairement exclure le suicide de Jeannine Lindeker. La première balle n'était certes pas mortelle, mais la deuxième a été tirée quand la victime était au sol. Elle n'a pas pu se faire elle-même ses deux blessures, l'ensemble n'a pas pu être réalisé au cours d'un suicide, écrit le légiste. Il est encore établi que l'épouse ne s'est pas défendue et n'a pas subi d'agression sexuelle, même si sa combinaison retrouvée cachée sous le buffet a été sans doute arrachée avec force et déchirée à hauteur de la poitrine. Le mari explique que le chat de la maison, encore lui, a très bien pu traîner cette combinaison légère sous le meuble et l'avoir déchirée avec ses griffes. Alfred Lindeker, un homme marié deux fois par le passé et doublement veuf, sa première épouse avait été retrouvée suicidée, a un profil qui intéresse au plus haut point les policiers. Lors de ses auditions, il ne se dérobe toutefois jamais. Il n'est pas dupe. Dès la première minute, il a su qu'il serait soupçonné. Il veut couper court à tout ce que l'on va raconter sur son couple. Il affirme ainsi que même si sa femme avait 18 ans de moins que lui, il n'était pas un mari jaloux. Même s'il a déclaré un jour à un de ses amis, sous le coup de la colère sans doute, « Je l'ai tiré d'affaire. Si elle me trompe, je la tuerai. » Dans cette petite ville de Roya, où tout se sait, aucun amant n'est signalé dans l'entourage de la jeune femme. Après 48 heures de garde à vue et toute une série de perquisitions à son domicile, notamment son atelier, où l'ingénieur dit étudier les effets des radiations sur le corps humain, Alfred Lindeker est autorisé à rentrer chez lui. Son emploi du temps, millimétré le jour du meurtre, l'exclut de la scène de crime. Le légiste certifie que la mort est intervenue 2 heures après le déjeuner. À cette heure-là, l'ingénieur était à Clermont-Ferrand, entouré de ses collègues de l'usine Michelin. « C'est à vous de prouver ma culpabilité et à moi de prouver mon innocence », répond directement Lindeker aux hommes qui l'interrogent. Pour le tester, un policier lui propose d'être soumis au sérum de vérité technique qui n'existe que dans les films. L'intéressé répond qu'il accepte immédiatement. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils tiennent le coupable, mais impossible de confondre le triple veuf. Les investigations font du surplace. Mercredi 21 mars, 11 jours après le crime, le corps fraîchement enterré de Jeannine Montmory, épouse Lindeker, est exhumé à la demande du juge d'instruction. Celui-ci a demandé un complément d'autopsie afin de procéder à un examen inédit en matière de balistique, le prélèvement de poudre sur les mains des victimes ou des suspects grâce à une technique américaine baptisée le test de Gonzalez, technique jamais employée jusqu'ici en France. Les mains sont préalablement lavées, puis enduites de paraffine tiède. Cette matière va déceler et retenir les moindres traces de poudre restées dans l'épiderme, traces dégagées par le tir d'un revolver. Le test, pratiqué sur la défunte, mais aussi sur son mari, qui accepte immédiatement l'examen. Un mois plus tard, 19 avril, les résultats du laboratoire de police criminelle de Lyon tombe, pas de poudre sur les mains de l'épouse, mais des résidus sur celles du mari. Cette fois, Alfred Lindeker est coincé, du moins le croit-on. La police va se rendre chez lui pour l'arrêter, mais il devance l'appel. Il va se présenter lui-même devant le juge Buteau et il dit « Avant que vous m'arrêtiez, je veux déclarer sur l'honneur que je n'ai pas tué ma femme ». Un coupable, comme le présentent avant l'heure les autorités, un coupable qui se retrouve en prison. L'instruction est loin d'être terminée, mais la route d'une comparution devant la cour d'assises semble désormais grande ouverte. Incarcéré à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand, Alfred Lindeker ne cesse de répéter qu'il n'a jamais touché un seul cheveu de sa malheureuse femme. Il n'était pas chez lui au moment du drame. Il n'a pas pressé sur la détente du revolver. Il redit que si de la poudre a été retrouvée sur ses mains, il ne s'agit pas de celle de l'arme. Deux jours précisément avant l'exhumation de son épouse, il a voulu effectivement réparer la pompe qui fournit l'eau à la maison. Il a pour cela procéder au meulage des charbons pour les adapter à la mécanique. C'est pour cela que le test de la poudre est positif. Il est établi qu'à cette date-là, l'ingénieur a bien acheté des vis pour réparer le moteur de cette fameuse pompe dans une quincaillerie de Clermont-Ferrand. Alfred Lindeker doit faire face aussi à des accusations imprévues sur sa vie passée, ses deux premiers mariages. Une cousine d'Anne-Marie, la première épouse, déclare qu'il lui a rendu la vie impossible et l'a poussé au suicide. La mère de Geneviève, la deuxième épouse, parle d'un être égoïste, maniaque, brutal, qui avait mis sa fille en esclavage. Elle est morte alors qu'elle voulait le quitter. Les enquêteurs vont se demander si cet ingénieur méticuleux ne serait pas un tueur d'épouses. Après tout, cette série est pour le moins troublante. Je me moque de l'offensive des belles-mères. Je n'ai aucune responsabilité dans les morts de Anne-Marie, Geneviève et Jeannine, réplique l'ingénieur. Il n'en faut pas plus pour les journaux pour faire de Lindeker un tyran domestique qui malmenait ses épouses. Le 11 mai, Marguerite Montmory, tante de la victime, est ainsi auditionnée longuement par le juge. Elle sort du cabinet d'instruction 5 heures plus tard, les larmes aux yeux. Selon la presse, elle aurait raconté que Jeannine n'était pas une épouse heureuse et était sans doute sur le point de se séparer. Le mari n'aurait pas admis cet affront et serait passé à l'acte. Le magistrat instructeur rassemble des impressions, des confidences, mais il sait qu'il manque de preuves pour traduire Lindeker devant la cour d'assises. Il lui faut trouver désormais un mobile qui pourrait expliquer un tel coup de folie. Le juge Buteau est bien conscient que les éléments incriminant Alfred Lindeker restent fragiles. Les expertises de la paraffine ayant permis de déceler de la poudre sur ses mains ne seraient pas d'une fiabilité extrême. Un rapport indique même qu'elles ont été à l'origine d'erreurs judiciaires en Angleterre, pays qui les utilise. Dans le cas présent, certains moulages semblent avoir été pollués par l'intervention des enquêteurs. Le magistrat est persuadé que le mari est le coupable et qu'il a tué sa femme à l'issue d'une mésentente. Mais il ne s'agit que d'une conviction, pas suffisant pour envoyer l'intéressé devant la cour d'assises. Le 8 juin, le juge décide donc de frapper un grand coup et d'obtenir les aveux de Lindeker lors d'un 8e interrogatoire. Les questions sont directes, accablantes. Le juge accuse l'inculpé d'avoir minutieusement préparé son crime en se confectionnant un alibi en béton. Il aurait imaginé un tour de passe-passe. « C'est vous qui avez tué votre femme », lance-t-il. Lindeker reste de marbre. Le magistrat est interloqué. Il n'a plus aucune carte dans sa manche. Il sait qu'il a perdu la partie. Après 51 jours passés en prison, Alfred Lindeker est remis en liberté, faute de charges suffisantes. Il va toutefois devoir patienter quelques mois avant de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu. Dans celle-ci, le juge fait part de ses certitudes, mais aussi de ses regrets. Tous les homicides n'ont pas forcément un mobile, mais ils ont tous des causes profondes, lointaines ou rapprochées. Les interrogatoires ont fait ressortir ces causes profondes. Le magistrat estime encore que l'ex-inculpé avait prémédité son acte de façon rigoureuse et avait prévu l'attitude à adopter après coup, un mari machiavélique. Alfred Lindeker va retrouver son bureau chez Michelin ainsi que sa maison de Roya. Il assure qu'il va continuer à tout mettre en œuvre pour que le meurtre de Jeannine soit éclairci. Après avoir été libéré, Alfred Lindeker se confie au journaliste venu à sa rencontre dans la maison du crime. « C'est un véritable calvaire que je viens de gravir. Je suis là, mais ce n'est pas fini. J'aurai encore besoin de me battre. Mes maisons sont propres. Je ne suis pas un assassin. » L'ingénieur ajoute « Il faut que la mort de ma femme soit éclaircie. Elle le saura plus tard. J'en suis certain, je m'y emploierai de toutes mes forces. » Pendant 6 ans, l'ingénieur va se faire oublier, continuant à travailler chez Michelin. Puis il publie un livre, « Le mystère de Roya », destiné à démontrer les accusations à son égard et les thèses des experts. Il refait toute l'enquête, contre-enquête, jusqu'à reprendre les mesures effectuées par les enquêteurs. Il va jusqu'à réétudier la balistique. Il peut conclure ainsi scientifiquement que, selon la trajectoire des balles, le tireur devait mesurer autour de 1m83, soit 20 bons centimètres de plus que lui. L'enquête n'a jamais été rouverte et celui ou celle qui a abattu Janine n'a jamais été retrouvée. Alfred Lindeker concluait son ouvrage avec ces mots pour le moins malicieux. « Lecteur, si tu me rencontres, tu peux me serrer la main sans hésiter. Elle n'a pas de trace de poudre. »
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.